Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François recevait ce jeudi en audience le président du Salvador, un entretien au cours duquel la figure de Monseigneur Romero, ancien archevêque de San Salvador, assassiné en pleine messe, a été évoquée. Vous entendrez dans cette édition le premier ministre bulgare, il sera reçu par le pape vendredi. Nous consacrerons également une partie de ce magazine aux migrants, au centre du rapport annuel d'Amnesty International. Et alors que la 20e session plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement se tient actuellement à Rome sur le thème « La sollicitude pastorale de l'Église dans le contexte des migrations forcées ». Témoignage également dans cette édition du président béninois. Il a participé ce jeudi matin à la conférence de presse de présentation de la nouvelle chaire au Vatican, qui portera le nom du cardinal Gantine. Bienvenue dans ce magazine. Le président du Salvador a fait le déplacement jusqu'au Vatican pour plaider en faveur de la béatification de Monseigneur Romero, l'archevêque salvadorien assassiné alors qu'il célébrait la messe dans la chapelle de l'hôpital de la Divine Providence. L'extrême droite était alors au pouvoir au Salvador. Accompagné d'une délégation de 7 personnes, Carlos Mauricio Funes Cartagena a été reçu par le pape François pendant une quinzaine de minutes dans la bibliothèque privée du Palais Apostolique, puis il a rencontré le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone et le sous-secrétaire pour les rapports avec les États, Monseigneur Dominique Mamberti. Romilda Ferrotto.
En Amérique latine, Monseigneur Romero est déjà vénéré comme un saint, une icône qui inspire encore de nombreux catholiques. Il a été assassiné pendant qu'il célébrait la messe en 1980, au moment de la consécration. Dans ses sermons, l'archevêque de la capitale salvadorienne avait publiquement critiqué le gouvernement militaire de l'époque. Il avait recueilli des preuves contre les escadrons de la mort qui s'acharnaient contre les humanitaires, les prêtres, les syndicalistes. L'élection du premier pontife latino-américain de l'histoire a donné des ailes à ceux qui veulent accélérer sa cause de béatification. Pour bien appuyer sa démarche, le président salvadorien a offert au pape François un reliquaire. Il contient un morceau de tissu du vêtement liturgique taché de sang que portait Monseigneur Romero le jour de sa mort. L'importance du témoignage de Monseigneur Romero pour son pays a bien été évoquée lors des entretiens du président salvadorien au Vatican, indique un communiqué officiel. Il a aussi été question de la contribution de l'Église salvadorienne à la réconciliation et au maintien de la paix, ainsi qu'à l'éradication de la pauvreté et de la criminalité organisée. Le président Funes Cartagena a raconté au Saint-Père qu'il avait été l'élève du jésuite salvadorien Rutilio Grande, tué 3 ans avant Monseigneur Romero, et que ce dernier était toujours entouré de son peuple et en particulier des enfants. On ignore quelle a été la réponse du pape François, mais le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a tenu à préciser que la cause de béatification suivait son cours, conformément aux règles qui sont celles de l'Église.
Le 21 avril dernier, Monseigneur Vincenzo Paglia, postulateur du procès en béatification de Monseigneur Oscar Romero, avait indiqué à la presse que la cause ouverte en 1993 avait été relancée. Les discussions porteraient notamment sur le qualificatif de martyr. Monseigneur Romero ayant été assassiné pour des motifs politiques et non pas in odium fidei. En 2007, Benoît XVI avait insisté sur la nécessité de préserver la figure de ce grand témoin de la foi contre les tentatives de récupération politique. Le pape François a également reçu en audience jeudi matin les membres de la présidence de la commission des épiscopats de la communauté européenne. Ce vendredi, ce sont des délégations bulgares et macédoniennes que le pape rencontrera à l'occasion de la fête des saints Cyril et Méthode, pionniers de l'évangélisation de l'Europe. Parmi les membres de ces délégations, emmenés par le premier ministre macédonien et le président du parlement bulgare, le premier ministre bulgare, Marine Raïkov, Une visite pleine de sens dans ce pays des Balkans de 7,5 millions d'habitants, composé de 80% d'orthodoxes, de moins d'1% de catholiques et d'environ 10% de musulmans. Parmi les défis que devra affronter le nouveau Premier ministre, ancien ambassadeur à Paris, la lutte contre la pauvreté et la méfiance à l'égard de la classe politique. Il devra notamment répondre aux attentes des protestataires qui veulent un contrôle par la société civile des institutions et combattre la corruption. Mais le message que Marine Reykov vient délivrer au pape est avant tout spirituel. Témoignage.
Avec le Saint-Siège, nous entretenons des relations très dynamiques et franchement de grande confiance. Par rapport aux grands défis du monde aujourd'hui, nous partageons les mêmes valeurs, des valeurs qui reposent sur la cause de la paix, la tolérance, la démocratie. Le Saint-Siège occupe une place très importante dans le système des relations internationales. Donc, pour nous, par conséquent, le dynamisme de nos contacts, des relations que nous avons avec le Saint-Siège, nous paraît tout à fait naturel. Et vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, la communauté catholique en Bulgarie jouit d'un respect inconditionnel de la part de toute la nation bulgare et constitue une sorte de pont, de lien moral entre le Saint-Siège et la Bulgarie.
Est-ce que vous venez à Rome avec un message particulier à délivrer au Saint-Père ?
Je suis sûr que le message du pape François par rapport au peuple bulgare sera d'une importance énorme compte tenu des contraintes que subissent certains Bulgares dans le contexte de la crise économique et sociale que nous traversons aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, bien évidemment, je serai là pour faire passer un message très clair de soutien de la part de la nation bulgare à la mission du pape François. D'ailleurs, un soutien qui est très ferme, d'autant plus que le pape François jouit d'une admiration et je dirais même d'un soutien moral de la part de toute la nation, nonobstant l'appartenance orthodoxe de la majorité des Bulgares.
La Bulgarie est entrée il y a moins de 10 ans dans l'Union européenne. Elle est régulièrement pointée du doigt pour différents problèmes qu'elle partage avec d'autres pays voisins, notamment la corruption. Beaucoup d'efforts ont été faits. Qu'en est-il de l'adéquation de la Bulgarie aux exigences européennes ?
Il est tout à fait évident qu'en Bulgarie, il y a des pratiques dans ce domaine qui sont tout à fait inacceptables. Mon gouvernement a fait tout ce qui est dans son pouvoir pour, non pas éradiquer, parce que ce serait une ambition de longue haleine, mais plutôt de diminuer l'emprise de cette pratique sur certains secteurs de l'économie. Je crois que nous avons pu réaliser des avancées dans ce domaine, mais c'est vraiment un engagement de longue durée. Et je crois que dans les années qui viennent, ce sera en quelque sorte un problème sur la voie de la solution.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. C'est officiel, le pape François se rendra à Assise en pèlerinage le 4 octobre prochain, jour de la fête de saint François d'Assise. L'annonce a été faite par l'évêque d'Assise, monseigneur Domenico Sorrentino, et confirmée par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi. Le pape avait été invité par monseigneur Sorrentino en avril dernier, lors de la visite ad limina des évêques italiens de Ombrie. Les chrétiens ne peuvent être insipides, leur vie doit avoir de la saveur. Le pape François l'a rappelé ce jeudi lors de la messe célébrée comme chaque matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Dans son homélie, le pape a exhorté les chrétiens à répandre le sel de la foi, de l'espérance et de la charité, soulignant que l'originalité chrétienne n'est pas une uniformité et que le risque existe que l'on devienne insipide, des chrétiens de musée. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va. Et puis à noter un nouveau tweet du pape ce jeudi. Est-ce que je porte la parole de réconciliation et d'amour de l'Évangile là où je vis et où je travaille ? « Le premier atelier du CECID, le Centre international pour le dialogue interreligieux et culturel, fondé par l'Arabie saoudite, l'Espagne et l'Autriche, et pour lequel le Saint-Siège revêt le rôle d'organisme observateur fondateur, vient de se tenir à Vienne sur le thème « L'image de l'autre ». Dans un communiqué final, le CECID souligne la nécessité d'aller au-delà des recommandations parce qu'il est urgent d'améliorer la mise en application et l'action de manière explicite en considérant le fait que le dialogue interreligieux doit prendre en compte la complexité de l'identité individuelle et avec la conscience que l'État peut se révéler un acteur fondamental qui permette aux citoyens de participer pleinement et dans la parité à la société sans discrimination. Le CECID insiste sur la nécessité d'une approche qui inclut tous les niveaux de l'éducation, des parents aux communautés et aux institutions religieuses, ainsi que la société civile et le gouvernement. Faute d'action internationale dans le domaine des droits humains, le monde devient de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants. C'est ce que relève Amnesty International dans son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde, rendu public ce jeudi. Un long texte qui cette année met donc l'accent sur les migrants. L'incapacité à traiter efficacement les situations de conflit est en train de créer une classe d'exclus au niveau de la planète, selon l'organisation qui affirme que les droits des hommes, des femmes et des enfants qui fuient les conflits ne sont pas protégés. Écoutez Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France.
La question des femmes et des enfants est très importante parce que ce que nous constatons, c'est que ce soit dans les camps de réfugiés ou de déplacés, mais que ce soit également dans les flux migratoires, les femmes sont de plus en plus nombreuses. D'après les chiffres que nous avons pu obtenir, les migrations qui se font vers les grandes villes, les centres économiques, 50% sont des femmes. Et ces femmes, en plus des violences que peuvent subir les hommes, hein, prises otages, de conditions très difficiles, vont être, elles, soumises très fréquemment à des violences sexuelles. Et que ce soit les femmes ou les enfants, ils font partie des populations souvent les plus vulnérables et nous attirons l'attention pour qu'une protection spécifique puisse leur être assurée.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. L'accueil, la protection et l'aide aux migrants, l'Église en a fait l'une de ses priorités. Le cardinal Antonio Maria Velho a d'ailleurs rappelé mercredi, lors de l'ouverture à Rome de la 20e session plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, que l'hospitalité était la marque de fabrique de l'Église. L'Église est très certainement l'une des seules institutions à pouvoir proposer une vue d'ensemble par sa présence sur tous les continents et par son action en première ligne au service des migrants et des personnes déplacées. Olivier Tosserie.
Les rapports des conférences épiscopales mettent en lumière l'extrême diversité du phénomène migratoire. L'Europe est évidemment à la fois louée pour les politiques d'intégration et d'assistance, mais aussi pointée du doigt pour les politiques restrictives mises en œuvre ces dernières années. Aux Amériques, la situation est évidemment bien différente. L'immigration est presque intrinsèque à la vie du continent. Aux États-Unis, 12% de la population est issue de l'immigration, 20% au Canada, une immigration qui provient en grande partie de l'Amérique latine et des Caraïbes. Au nord comme au sud du continent américain, l'Église dénonce les dérives, les problèmes et cherche à peser sur les gouvernements pour que la dignité de la personne humaine soit mieux prise en compte dans les législations. L'Afrique est bien sûr la première concernée par le phénomène migratoire, mais l'Église ne s'arrête pas à ce lieu commun et va à l'encontre d'idées reçues. Certains en Europe parlent de vagues migratoires africaines. En fait, depuis 2009, seulement 20 millions d'Africains ont émigré hors du continent, soit 2% de la population totale. L'Église y joue son rôle d'assistance humanitaire, d'accueil et de soutien des plus démunis, de formation, se substituant souvent à des organisations internationales absentes ou insuffisantes. Elle le fait avec son souci renouvelé d'accueil et d'assistance, voyant dans le migrant non un péril, mais le visage du Christ.
« L'Afrique est perçue à juste titre comme le continent dont sont principalement originaires les migrants. Certains quittent leur pays rongé par la pauvreté, d'autres fuient la violence et les conflits. C'est le cas de nombreux Congolais dans certaines régions les plus jeunes n'ont connu que la guerre. Depuis un an, c'est au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, que se concentrent les affrontements. Des affrontements entre l'armée et la rébellion du M23, mouvement du 23 mars. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé son inquiétude et a invité toutes les parties à régler leurs différends de façon pacifique. Il était ce jeudi à Goma, capitale de la province, au lendemain de sa visite à Kinshasa, où il a notamment rencontré le président congolais Joseph Kabila. Lundi, après plusieurs mois de trêve, les combats ont repris à une dizaine de kilomètres de Goma. Des tirs d'armes lourdes ont atteint la localité de Mugunga, provoquant la fuite d'environ 30 000 déplacés. Nous avons joint Taylor Doeka, le chargé de communication à la Caritas Goma.
Aujourd'hui, nous avons aussi enregistré au niveau de la paroisse Saint-François-Xavier de Ngocho 4402 personnes déplacées. Ils sont là jusqu'à présent sans assistance. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture. La paroisse ne remplit pas les conditions d'un site de déplacés dans les conditions hygiéniques, les conditions sanitaires, eau et assainissement. C'est un peu difficile de les assister là à la paroisse. Donc, on est en train de voir comment on peut les localiser quelque part. C'est à partir de là que la Caritas Goma va procéder à la distribution des vivres.
Taylor Doeka, chargé de communication à la Caritas Goma, interrogé par Thomas Chabol. Une chaire d'enseignement sur l'Afrique sera inaugurée dans une université pontificale, l'université du Latran. Elle portera le nom du cardinal béninois Bernardin Gantine et se consacrera plus spécialement à la socialisation politique en Afrique. Ancien doyen du Sacré Collège, le cardinal Gantine a été le premier archevêque métropolitain africain en 1960 et premier cardinal africain à la tête d'un dicastère du Vatican en 1977. Il a dirigé les conseils pontificaux Corunum et Justice et Paix, puis la Commission pontificale pour l'Amérique latine et la Congrégation pour les évêques. Il est mort à Paris en 2008. Le président béninois Thomas Boni Yayi a participé ce jeudi matin à la conférence de presse de présentation de la nouvelle chaire au Vatican. Soulignant l'importance de la doctrine sociale de l'Église, il a affirmé que l'Afrique avait grand besoin de ses recherches car selon lui, les États africains ne sont pas en mesure de répondre aux défis actuels. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention.
Est-ce que l'État existe? Je ne crois pas tellement. Vous voyez, quand vous voyez les foyers de tension, lorsque deux pays s'affrontent ou c'est des rébellions, qui quittent un pays et qui rentrent dans un autre pays et qui mettent en déroute complètement toute une armée, les États-nations que nous avons aujourd'hui ne sont pas suffisamment armés. Les institutions ne fonctionnent pas très bien. Comment de tels États peuvent être les sauveurs de nos populations? Je ne crois pas. Et le mieux, c'est de rebâtir, de retourner à la base. Et c'est là où nous devons emprunter au niveau de la doctrine sociale de l'Église. Nous avons connu, en tant qu'Africains, cette période d'esclavagiste. Après la colonisation, je crois que tout ceci a remis en cause les bases culturelles. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à un stade où nous avons beaucoup de problèmes, c'est-à-dire les dégâts sont déjà importants, impressionnants. C'est ensemble, non seulement à l'intérieur de nos nations, mais encore sur le continent que nous devons le faire. C'est pourquoi nous parlons de l'unité. C'est indispensable, c'est-à-dire éviter de gouverner sur la base de la religion. Nous croyons au dialogue des religions, mais il ne faut pas privilégier. Donner le sentiment qu'on utilise une religion pour gérer les affaires de la cité commune. Il faut éviter également de favoriser l'insécurité. Il faut éviter de détruire la démocratie. Il faut absolument faire prévaloir une gouvernance électorale constitutionnelle. Ce que le peuple veut, il ne faut pas se retirer seul et remettre ça en cause. Donc, naturellement, la question de la renaissance des valeurs spirituelles, éthiques et morales nous conduira de faire face aux problèmes liés à la lutte contre la corruption, la fin de l'impunité, la transparence, l'obligation des résultats.
Le président Boni a par ailleurs plaidé en faveur de la mise en valeur des richesses de la culture africaine menacées par la globalisation. La solidarité du terroir est en train de disparaître, a-t-il averti. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.